Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL, Eric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour ce On refait le match jusqu'à 19h30 avant le grand multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. On va parler de plein de choses, évidemment le match Brest Paris Saint-Germain, c'est la mi-temps, le match va reprendre, le PSG qui mène 1-0 grâce à un but évidemment d'Angel Di Maria, l'homme en forme du club à la 39e, et le PSG qui ne donne pas une très très belle image pour l'instant sur la pelouse de Brest. À mes côtés ce soir pour ce On refait le match, Florian Gazan de la chaîne L'Équipe, il a sorti carrément l'écharpe.
Oui, bonsoir Eric. Bah oui, mais vous n'avez pas sorti le chauffage, donc
On a mis la clim pour vous. On s'est dit nous c'est l'hiver, on rajoute la clim, c'est bien. Jean-Philippe Gorand, formateur à l'ESJ, il est également avec nous. Salut Jean-Philippe.
Très heureux, sans cache-nez, sans rien, je suis très bien.
La petite chemise, tout va bien. À manches longues quand même, parce que c'est l'automne.
Oui, faut pas pousser non plus.
Bleu pour que le ciel soit quand même beau.
Voilà, avec mes yeux, c'est
tout va bien. Baptiste Després du Figaro est avec nous. Salut Baptiste.
Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde.
Et puis j'ai eu très peur au début, j'avais trois personnes avec des lunettes dans le studio. Heureusement, Olivier Delesbues comme moi. Jean-Philippe Grand les a enlevés, hein, pour ceux qui nous suivent en vidéo.
Moi, j'ai enlevé sur atel.fr pour venir.
Ça va Olivier?
Ça va très bien. Ouais.
Journaliste indépendant, ce ne sera pas un refait le match d'un télo. On va parler foot, évidemment. On va parler sueur. Il n'y en a pas eu beaucoup sur la pelouse pour Edinson Cavani, titulaire ce soir, qui est en difficulté avec le Paris Saint-Germain. On parlera de l'OM face à l'OL, le choc demain. L'Olympico, est-ce le nouveau classique du championnat de Ligue 1? Et puis on parlera de l'équipe de France également qui affronte la Moldavie jeudi. Simple formalité ou pas pour la qualif pour l'Euro 2020. Ça débute juste après ça.
RTL, on refait le match. Eric Silvestro.
On refait le match.
Eric Silvestro.
On refait le match ce soir avec Florent Gazan de la chaîne L'Équipe, Jean-Philippe Gorand, formateur à l'ESJ Lille, Baptiste Després du Figaro, Olivier Delosbuez, journaliste indépendant, et bien sûr Philippe Audouin qui est à Francis Leblay pour Brest Paris Saint-Germain. La seconde période vient de reprendre. Philippe, c'est le PSG qui mène 1-0.
C'est le PSG qui mène 1-0, effectivement Eric, mais une première occasion dans cette deuxième période à l'instant avec un tir de court après un renvoi de la défense parisienne. Contrôle de la poitrine à l'entrée de la surface, une reprise qui passe à côté. C'est l'illustration de la première mi-temps. Le PSG a beau mener au score, c'est quand même Brest qui produit la meilleure impression, qui a eu des occasions en première mi-temps. Et puis il y a eu ce but de Di Maria lancé par Draxler dans le dos de la défense brestoise, parti à l'extrême limite du hors-jeu. 5 minutes avant la mi-temps, il est allé battre Larsonneur, un but qu'il a fallu quand même revoir avec les images vidéo pour être sûr qu'il n'y avait pas hors-jeu. C'est extrêmement limite, et le PSG qui s'en sort bien pour le moment avec ce petit avantage d'un but grâce à Di Maria.
Alors précisons toutefois que Sergio Rico est dans les buts du Paris Saint-Germain, puisque Navas a ressenti une gêne aux adducteurs à l'échauffement. C'est le quatrième gardien du PSG cette saison à disputer un match avec Areola, Bulka et évidemment Navas, et donc Sergio Rico, que Mbappé n'est pas là, qu'Icardi n'est pas là, que Marquinhos est sur le banc. Bon, équipe mixte du PSG. Notre premier débat, Philippe, c'est le PSG a-t-il perdu Edinson Cavani? Il est titulaire ce soir puisqu'Icardi était légèrement blessé. On ne l'a pas vu en première mi-temps.
Pas du tout. Et en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de ballons exploitables pour Cavani. Difficile de le juger. Il y a juste eu une action, je me souviens, où il, sur un ballon dans la surface de réparation brestoise, il a pris sa chance, c'est passé très nettement au-dessus. Alors il y avait hors-jeu, mais le hors-jeu a été sifflé après sa tentative, et sur ce coup-là, c'était quand même un beau raté de Cavani. Mais sinon, on l'a pour ainsi dire pas vu. Mais en même temps, est-ce qu'on peut le blâmer compte tenu du jeu offensif de Paris aujourd'hui?
Oui, mais alors l'a-t-on perdu, Florent Gazan, Edinson Cavani? Est-ce que, voilà, on voulait dire, est-ce que le PSG lui manque de respect? Là, il a l'occasion de faire taire un petit peu les critiques et remontrer qu'il est important. Sur la première mi-temps, c'est une catastrophe.
Bah déjà, les autres joueurs du PSG doivent demander qui est ce monsieur, parce qu'ils n'ont pas joué avec lui comme depuis quelques mois.
Il a les cheveux longs, alors que d'habitude, les attaquants ont les cheveux quasiment rasés.
Bah non, mais le problème aussi, hormis le fait que, bah voilà, il y a rien de blessure, donc manque de rythme, manque de confiance, il a toujours pas planté de but, les autres ont perdu l'habitude de jouer avec lui. Enfin bon, et puis vu cette équipe qui est comme encore une sorte de gloubi-boulga concoctée par Tourelle, qui en gros fait de la chimie, quoi. C'est chimie 2000. Il prend les matchs de Ligue 1, puis il s'amuse, il met ses trucs et tout. Ça peut pas mettre Cavani dans les meilleures conditions possibles pour faire un grand match.
Quand même, Jean-Philippe Gorand, 10 ballons touchés seulement en première période, aucun tir. Le deuxième joueur parisien qui a touché le moins de ballons, c'est Draxler, mais il en a quand même touché le double. Donc vraiment, il a traversé la première mi-temps comme un fantôme, Cavani.
Oui, après, est-ce qu'il manque de respect au PSG? Je trouve ça un peu gonflé comme formulation, parce que il faut quand même rappeler qui est Cavani. Enfin, je veux bien qu'on lui tombe dessus, et j'aimerais qu'on ait la même mansuétude avec Cavani qu'on l'a parfois avec d'autres joueurs du PSG. Hein. Je trouve que c'est assez facile de tirer sur une ambulance quelqu'un qui n'a pas joué depuis fin août ou je sais pas, bon bref.
Oui, là, il a joué 19 minutes contre l'OM et 18 contre Dijon.
Voilà. On peut pas réclamer de lui qu'il casse la baraque là, ça va, enfin faut un peu...
Oui, mais on avait l'impression presque avant ce match où il était titulaire, Olivier de l'OSBS, que c'était un scandale que Cavani n'ait pas joué un match titulaire ces derniers matchs et qu'on laissait Icardi alors que Cavani est à nouveau disponible.
Oui, parce qu'il y a une transmission et puis surtout parce qu'on va parler de Cavani parce qu'il est en fin de contrat, parce qu'il va avoir 33 ans l'année prochaine et qu'on se demande vraiment si c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, on va regarder à travers sa prestation aujourd'hui, on va faire la comparaison avec Icardi. Il faut lui laisser le temps de revenir, il faut lui laisser le temps de se réintégrer au jeu et puis ça peut fonctionner. Il faut surtout pas le perdre. On ne sait pas ce qui va se passer au mois de février, au mois de mars, si Icardi sera en forme et tout ça. Et là, c'est pour ça que Tourelle a besoin de le conserver dans son effectif. C'est pour ça qu'il lui adresse ces messages-là en le mettant titulaire. Après, le mettre titulaire dans une équipe Gloubi-Boulga comme ça, en lui faisant croire qu'il est au même niveau que Kurzawa, c'est peut-être pas la meilleure solution.
Après, on le voit dans ses enchaînements, en première mi-temps, même là, au début de la seconde, il a beaucoup de mal, ne serait-ce qu'au niveau de ses passes, au niveau de son placement. C'est quelqu'un quand même qui a une grosse débauche d'énergie, qui a besoin de rythme. Alors, tous les joueurs ont besoin de rythme. Mais lui, il a quand même un profil, c'est un diesel, Cavani. Il a besoin de courir sur le terrain, il a besoin de se sentir comme ça. Après, dans le secteur offensif, ça n'a jamais été quelqu'un qui participait énormément au jeu de l'équipe, plus dans le travail défensif quand même. C'est un tueur au niveau de la surface. Là, il n'y a pas une occasion. Il y a Draxler qui est là, il y a Kurzawa. Enfin, c'est quand même une équipe. Pas bis, mais en tout cas à prime.
Non, puis surtout, il faut pas demander à Cavani autre chose que de faire du Cavani. Quand tu reviens d'une période comme ça, de longue absence, là où tu pêches le plus, c'est physiquement. On le voit bien sur les courses, il est un peu en retard, les contrôles. Quand physiquement t'es pas bien, techniquement t'es pas bien non plus. Tout s'enchaîne. Donc je pense qu'il faut. En plus, là, le match est en train de se jouer. Si jamais dans un quart d'heure il plante un doublé. Il faut rester quand même mesuré. Oui, il fait pas un bon match, mais alors c'est pas très grave.
Non, mais ce qui est plus dérangeant, c'est il est disponible depuis 4 matchs. Hein. Il était sur le banc à Nice, il est pas rentré. Il était sur le banc contre l'OM, il a joué 19 minutes. Il était sur le banc contre Dijon, il a joué 18 minutes. On a entendu, voilà, Tourelle ne respecte pas Cavani, Tourelle laisse Icardi, alors que Cavani est disponible. Bon, il faut déjà savoir que il n'a pas joué jusqu'à maintenant parce que physiquement, il n'était pas encore apte.
Il n'était pas apte, et puis surtout parce que physiquement, il y avait quelqu'un devant lui qui plante but sur but. Mauro Icardi est arrivé sur la pointe des pieds.
9 matchs, 8 buts avec le PSG.
Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Si c'était Choupo-Moting devant lui qui ne mettait pas un pied devant l'autre, ok, on dit Cavani va rejouer. Sauf que là, Icardi mérite sa place. Tourelle n'est pas là pour faire du social. Maintenant, il y a des choses qui sont importantes avec le PSG. Ça va être le défi de Tourelle cette année. C'est la gestion des stars devant. À savoir, là, un Cavani, quand vous allez faire jouer 45 minutes ou une heure, c'est pas un joueur, encore une fois, comme l'a dit Jean-Philippe, physiquement, il faut qu'il soit vraiment à 100%. Et sur des matchs comme ça va être compliqué pour lui.
Ouais, enfin, je te rappelle qu'avant même que Icardi arrive, déjà, il était un petit peu tricard avec Tourelle. On sent bien que Cavani, c'est pas la tasse de thé de l'entraîneur allemand.
Qui avait déjà fait jouer Mbappé en neuf l'année dernière.
Oui,
par exemple.
Et puis même l'année dernière, le premier qui sortait, c'était toujours Cavani. Il y a des matchs où il a fait jouer Choupo-Moting, le match à Naples où Cavani revient sur ses terres où il est remplaçant. On a bien compris de toute façon que Tourelle, Cavani, ça collait pas. Et là, le sens de l'histoire, de toute manière, c'est d'installer Icardi. Donc Cavani, bah, il jouera quand on ira à Brest.
Flo, t'as raison. Bien sûr que le sens de l'histoire, c'est qu'en fin de saison, Cavani s'en aille et qu'on installe Icardi, qu'on rachète Cavani et qu'on rachète Icardi et que ok. Maintenant, il faut pas non plus avoir la mémoire courte. Cavani, c'est pas le plus grand technicien de la terre. C'est quand même 195 buts avec le Paris Saint-Germain. Je veux bien qu'à ce stade de la saison, compte tenu de l'émergence d'Icardi, ces 195 buts là, ils pèsent pas très lourd. Je dis simplement que eu égard à ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, ça restera pas dans l'histoire le plus grand joueur du PSG, ça restera le plus grand buteur du PSG pour l'instant, et je dis quand même que à ce titre-là, la gestion humaine de Cavani, dont on ne sait pas tout dans la semaine entre les matchs, dont on ne sait pas tout, j'ose espérer que le club se rappelle du nombre de buts et des matchs qu'il a fait.
Olivier,
il y a ça aussi à prendre en considération. On ne voit pas les entraînements, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais il faut se souvenir aussi de Cavani par rapport à l'institution PSG. Il n'a pas été aussi exemplaire que ce qu'on peut dire. Et effectivement, ça n'a pas été Neymar, mais quand il a s'agi de rentrer en retard en 2015, en 2014 d'Amérique du Sud, à chaque fois il a été sanctionné, il a pris des fortes amendes. C'est un joueur qui est exemplaire sur le terrain, mais il n'a pas toujours été exemplaire dans la vie du club.
Après, est-ce qu'il y a une question de profil aussi? Voilà, on a des joueurs comme Di Maria, comme Mbappé, Neymar qui va revenir, où on aime bien tripoter le ballon, on aime bien prendre les espaces, aller vite. Bon, Icardi, c'est l'attaquant de surface, tu le mets dans la surface, il y a un ballon qui traîne, sur les 8 buts qu'il a mis, il y en a la moitié que peut-être nous-mêmes on aurait mis, qui a qu'à pousser le ballon au fond, mais il est là, il sert à ça. Cavani, il aime aussi prendre la profondeur, courir, etc. Donc aussi, est-ce que le profil le dessert par rapport aux autres stars, Baptiste?
Bien sûr, le profil le dessert, parce parce que quand on voit Icardi, il a quand même, je trouve, une palette plus large au niveau technique que Cavani, dans la participation au jeu, dans le jeu d'eau au gardien de but. C'est quelqu'un qui est vachement intéressant. Je me souviens notamment du match contre le Real Madrid. Icardi était peut-être à 60% de son physique. Il était vraiment pas dedans. En revanche, il a su être intelligent. Il sait jouer pour les autres. Là, avec Cavani, c'est pas que ça lui met un coup de vieux. Je renie pas le fait qu'il ait mis 195 buts. Il a été extraordinaire. Ça, il y a pas à douter de ça. En revanche, au niveau de l'état d'esprit et puis surtout du profil d'Icardi, je trouve que Icardi met peut-être un petit coup de vieux à Cavani à ce niveau-là.
Oui, il y a aussi une donnée importante. Et c'est là où on verra sur la durée aussi comment va évoluer Icardi. C'est-à-dire que quand tu joues dans cette équipe du PSG, dont on ne sait pas quelle ossature elle aura l'an prochain, mais pour l'instant, quand Neymar va rentrer, entre Neymar, Di Maria et Mbappé, tu as des joueurs...
Et Cavani ou Icardi,
non,
déjà.
Mais je ne parle pas d'Icardi et de Cavani, je parle de ces trois-là, dont les qualités techniques s'allient à une grande qualité de vitesse. Bon, Cavani, ce n'est pas un joueur qui est très rapide. Bon.
Non.
Maintenant, est-ce qu'Icardi est un joueur très rapide? Je ne suis pas convaincu non plus pour s'insérer avec les trois autres.
Mais tu peux le laisser en plot dans la surface.
Oui, mais tu peux aussi décider qu'avec ces trois-là, derrière Cavani, tu dis à Cavani, maintenant tu défends plus, tu restes devant.
Mais toi, tu pars du principe déjà qu'on va jouer avec les quatre, ce qui ne semble pas être le cas. Tourelle nous dit, dans l'image de Ligue des Champions, c'est trois au milieu, donc déjà il y en a un des quatre, donc tu as cité qui jouera pas.
Je suis persuadé que sur les gros matchs, tu auras ni Icardi ni Cavani, tu auras Di Maria, Neymar, Mbappé. Si ils sont en forme comme optimal, c'est évident pour moi que ce sera ces trois-là, et les deux autres seront sur le banc. Il va pas mettre Di Maria en milieu de terrain, ça y est, il a trouvé son milieu de terrain, son Verratti, Gay, Marquinhos, il y touchera plus.
Si met Icardi et Cavani sur le banc, Cavani jouera quasiment plus alors, parce que c'est Icardi qui rentre en premier, je te l'annonce.
Encore faut-il que les trois jouent un jour ensemble, sans être suspendus. Et on a vu ces dernières années, c'est compliqué.
Est-ce qu'on peut faire accepter à Cavani, de par tout ce qu'il représente pour ce club, et notamment ses 195 buts, le fait de devenir le fameux super sub, le remplaçant de luxe, le banc
Mais c'est toujours pareil, on en revient toujours à la même chose. C'est du management. Là où le PSG a tant failli ces dernières années, c'est le management. Tu peux expliquer les choses à Icardi, à Cavani. Il ne faut pas simplement qu'il découvre les choses ou dans les journaux ou parce que deux heures avant le match. Non, il mérite qu'on discute avec lui. Il n'a pas tout bien fait, mais on peut aussi le respecter à ce niveau-là.
Après, le club le fait peut-être. Nous, on interprète beaucoup parce qu'il n'a pas joué. Mais
après, Cavani, il n'est pas stupide. Il sait bien qu'en ne prolongeant pas, en allant au bout de son contrat pour partir libre, il se met dans une situation où forcément, il va être regardé par le club d'une manière différente et plus être une priorité. Donc, il a fait ce choix aussi. Il faut qu'il l'assume.
Baptiste Després, pour conclure.
Dans la sortie de Leonardo cette semaine en conf de presse, j'ai trouvé ça intéressant, sa phrase sur le « on a créé la concurrence entre Cavani et Icardi ». On le savait, mais le fait de le dire, c'est aussi important parce que derrière, il connaît le sens de l'histoire. Cavani, il sort pas comme ça de la dernière pluie. Il sait que l'avenir, c'est Icardi. Et justement, ça va être à voir si au niveau de l'état d'esprit, il va pouvoir suivre comme ça dans toute la saison.
Mais peut-être que la réussite de la saison du PSG, si enfin réussit-il en Ligue des Champions, pour Icardi, c'est peut-être aussi parce que cette saison, on va mettre la pression un peu et dire à Cavani, tu seras un peu en retrait.
Philippe Audouin a écouté religieusement ce débat sur Edinson Cavani. Il n'est pas intervenu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de grosse occasion de but à Brest, entre Brest et le Paris Saint-Germain.
Non, c'est vrai que le PSG gère un peu mieux, ne montre pas beaucoup plus sur le plan offensif, mais gère un peu mieux déjà à l'aspect défensif, parce qu'en première mi-temps, il y avait quand même eu quelques occasions pour les Bretons. C'est plus vraiment le cas. 1-0 pour Paris à une demi-heure de la fin.
Et Philippe, confirme-moi, il m'a semblé voir Icardi à l'échauffement.
Alors je sais pas où les joueurs s'échauffent. Oui, à l'opposé là-bas. J'ai du mal à les reconnaître parce que il fait froid ce soir à Brest. Il y a deux joueurs parisiens avec un bonnet et puis deux autres également qui s'échauffent, dont Icardi.
On a donc appris que quand Philippe Audouin a froid, il ne voit plus. Il a les yeux qui gèlent et les paupières qui se collent.
Il baisse le bonnet trop bas.
Il ne voit plus. Merci Philippe. En tout cas, Icardi à l'échauffement, Cavani toujours sur la pelouse et 1-0 pour le PSG. On marque une courte pause et on parle du choc demain entre l'OM et l'OL. Est-ce le nouveau classique du championnat?
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match. Éric Silvestro.
Et on refait le match jusqu'à 19h30 avec Florian Gazan de la chaîne L'Équipe, Jean-Philippe Gorand, formateur à l'ESG Lille, Baptiste Després du Figaro et Olivier Delos-Buès, journaliste indépendant. Juste avant de parler de OM-OL, petit détour par Francis Leblé. Brest-Paris-Saint-Germain, Philippe Audouin, le PSG qui a eu deux très grosses occasions de faire le break.
Avec Kurzawa d'abord, qui s'est retrouvé bizarrement à l'entrée de la surface de réparation brestois sur un bon mouvement et son tir qui a été stoppé par Larsonneur. Et puis dans la minute qui a suivi, attention quand même au corner brestois, au premier poteau avec un ballon maintenant dans les pieds de Perrault, au deuxième qui remet ce ballon dans le paquet. C'est renvoyé par la défense de Paris, mais c'est incroyable Paris défend comme si c'était une petite équipe qui était obligée de se recroqueviller. Et là, une frappe lointaine détournée par Rico, le gardien du PSG. C'est pas fini, encore un ballon dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Je peux vous dire que le PSG ne maîtrise pas grand chose sur cette poussée brestoise. Et là, en revanche, il y a un ballon de contre qui s'offre à Cavani, qui a une solution avec Di Maria. Il choisit l'opposé, mais la passe est mauvaise. Il y avait Draxler qui était bien placé, mais la passe n'est pas bonne du tout. Et effectivement, après le tir de Kurzawa tout à l'heure, c'est Cavani sur un coup franc qui s'est retrouvé à angle fermé au coin des 6 mètres et qui a tenté sa chance, mais son ballon a été stoppé par l'Arseneur, le gardien brestois. 1-0 pour le PSG à Brest après 63 minutes, but de Di Maria.
Je ne dénoncerai personne, mais sur l'occasion de Cavani dans le studio, quelqu'un a dit Icardi l'aurait mis celle-là. Voilà, je ne dénoncerai personne. Marseille-Lyon, demain soir, 21h, ce sera en direct et en intégralité sur RTL. C'est le choc un petit peu de cette 13e journée. Est-ce que c'est le nouveau classique du championnat? On se pose la question.
Eh bien, en tous les cas, c'est un match qui a une vraie valeur ajoutée par rapport à un PSG-OM parce que, enfin, demain soir, il va y avoir une vraie incertitude sportive. On ne sait pas qui va gagner. Moi, quand je regarde PSG Marseille, je regarde parce que j'ai été élevé à la mamelle des PSG Marseille où on s'insultait avant, on se cognait dessus pendant et on s'insultait après. Et puis, il y avait deux équipes de très grande qualité, donc on ne savait pas sportivement où on allait. Là, on sait que 99 fois sur 100, c'est le PSG qui va gagner. Donc, sportivement, je prends moins mon pied. Là, demain soir, il y a des choses. Il y a des choses avant. Il y a évidemment l'histoire.
Un Payet qui s'en est pris à Garcia, en disant je comprends pas qu'il puisse être à l'OL après avoir dit des choses horribles quand il est en train de l'OM.
Sportivement, derrière l'ogre PSG, c'est quand même deux équipes que tu es en droit d'attendre dans ces places-là, 2, 3, 4. Donc, effectivement, moi, c'est un match qui me fait saliver. Déjà parce que le Vélodrome, c'est un stade merveilleux, qui sera plein, qui va y avoir un tifo magnifique. Et que les Lyonnais, ils vont se faire rentrer dedans. Et on sait que ce Lyon-là, depuis quelques années, quand il est un peu harcelé, quand il est un peu provoqué, quand il est un peu bousculé, comme en Ligue des Champions, de temps en temps, il perd ses moyens. Donc c'est un vrai test.
C'est le thème de notre baromètre sport Odoxa pour RTL et Groupama cette semaine. La question a été posée aux Français. 54% des Français et 65% des amateurs de football considèrent en effet que c'est le nouveau classique du championnat parce qu'il est plus équilibré, qu'il a plus d'intérêt sportif. Baptiste Després, c'est vrai qu'avec la petite phrase de Payet en plus sur Garcia
c'est
hier,
génial.
Voilà, on a l'impression de revivre un petit peu les matchs qui se jouent durant toute la semaine.
Exactement, il y a tous les ingrédients. Je rejoins Jean-Philippe sur au niveau sportif, ça c'est sûr. Et puis la petite phrase de Payet, c'était sur la forme. Après, on va peut-être y revenir sur le fond, mais sur la forme, je trouve ça extraordinaire parce que il met un petit peu de piquant. C'est ce qu'on disait ici même avant PSG-OM. Ça manquait de ça. C'est parce que c'était aseptisé, parce qu'il n'y avait plus de petites phrases, il n'y avait plus de petits mots. Alors que là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a aussi le Vélodrome, les 120 ans. Il y a le côté Rudy Garcia qui revient. On ne sait pas s'il est aimé par les supporters lyonnais, les supporters marseillais. On sait qu'il est détesté
par tous.
Tout
le monde va le siffler.
Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, non, le décor est parfait. Donc, ça nous promet quand même un gros match.
Je précise d'ailleurs, il n'y aura pas de supporters lyonnais pour ce déplacement à Marseille. Et donc, le stade sera plein, puisqu'en plus, il n'y aura pas de zone tampon pour la zone visure. Donc, ça sera vraiment plein demain. Olivier Delosbius.
Il y a de l'enthousiasme, et je le comprends, mais ça reste quand même un classique par défaut, quoi. La meilleure équipe de France, c'est le Paris Saint-Germain depuis des années. Il y a éventuellement Monaco derrière qui a fait des belles choses. Et là, on nous parle de ce match entre l'OM et Lyon qui a été monté, notamment par les télés, pour mettre du piment.
L'Olympico!
L'Olympico pour mettre du
Et que dire de Marseille-PSG si ça n'a pas été monté par les télés?
Ça a été la même chose. Mais moi qui suis espagnol, le Classico, c'est Real Barça.
Et ça restera ça.
Ça restera Boca River.
Surtout. Oui.
Voilà, ça, c'est des matchs qui ont de l'histoire. Pour l'instant, l'histoire des OM Lyon. Il y a eu des très beaux matchs, mais il y a eu des matchs aussi qu'on a totalement oubliés. Donc, à un moment, surtout, on retient surtout, quand j'ai étudié un peu les matchs, on retire surtout les déclarations. Il y a eu effectivement le 5-5 qui était merveilleux. Mais alors, les déclarations entre les présidents, je sais pas s'il faut s'en vanter un peu, les bagarres entre Aulas, Pabliouf, Aulas, Labrune, Aulas, Héro. On va peut-être arrêter là-dessus. Le piment, c'est bien. Mais à un moment, il n'y a pas que le piment, il y a le jeu aussi.
Florent Gazan.
Après, excuse-moi, mais à la grande époque des classicos PSG-OM, à part l'année où, voilà, après 93, ils battent le PSG avec Reboli, tu te souviens pas vraiment des matchs. Tu te souviens de la boucherie, tu te souviens des coups, des petites phrases, tu te souviens de tous les à côté. Mais franchement, raconte-moi, remémore-moi un match marquant de cette époque-là. Moi, je les ai tous vus. J'ai pas de souvenirs.
Le match avec les Minots, le 0-0.
Oui, non, mais ça c'était déjà après.
Le
moi, je te parle
de
la
contre Barthez, c'est un match qui marque. Il y a quand même des images collectives qu'on a sur ces matchs-là.
Mais aujourd'hui, c'est plus la peine. En plus, le PSG ne répond même plus. Même quand il se faisait un petit peu titiller, agressé par les Marseillais,
sans rien. Ça.
Oui, puis voilà. la recette quand même évidente.
Jean-Philippe Gaurand.
Pourquoi ça nous faisait saliver les PSG Marseille il y a quelques années? C'est parce que des deux côtés, il y avait du talent.
il y avait un vrai match.
Il y avait du talent. Je ne dis pas que demain soir, entre Lyon et Marseille, il n'y a pas de talent, mais c'est plus un talent intermittent.
En un mot, sur Rudy Garcia, il a été beaucoup critiqué, donc notamment par Dimitri Payet, qui, je ne comprends pas qu'il puisse entraîner l'OL après avoir dit des horreurs quand il était entraîneur de l'OM, notamment dans les causeries. Est-ce que c'est un mercenaire du foot? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça? Et puis c'est tout. Voilà, aujourd'hui, il y a des opportunités, on change de club facilement, y compris pour les entraîneurs.
Mais moi, je pense ça aussi. Non, ce n'est pas un mercenaire. Après, encore une fois, il a plus de poste. Il y a le poste de Lyon qui est disponible. Il va passer un entretien. Laurent Blanc va pas faire l'histoire, etc. Mais pourquoi il ne prendrait pas le poste? Pourquoi? Est-ce que Claude Puel, c'est un mercenaire? Combien il a fait de clubs en Ligue 1, Claude Puel?
Christian Gourcuff,
après, au niveau du timing, c'est complètement
c'est
différent, etc.
Quoi. Christian Gourcuff a dit que Nantes tuait le football avec Kita et ça l'a pas empêché de signer à Nantes.
Oui, bon, le foot est rempli de ce genre de contre-indications.
Donc ça vous choque pas?
J'ai dit que Rudy Garcia, il a toujours été politique dans tout ce qu'il a fait dans sa carrière, que ce soit à Rome, à Lille, il a toujours été comme ça, ou à Marseille encore plus. Donc il a fait des déclarations effectivement contre Lyon, c'est ça qu'on remet en évidence en ce moment, mais il fera les mêmes demain sur Marseille et puis il fera ça toute sa carrière.
On peut pas lui reprocher quand t'as été entraîneur de Marseille et que Lyon, ce Lyon-là, le Lyon de Jean-Michel Aulas vient te demander de venir.
Dans ta galerie, oui.
Ça ne se refuse pas. Moi, ce que je reproche à Rudy Garcia et Pac depuis quelques mois, c'est sa communication. T'as pas besoin de dire quand t'es à Marseille que t'as le club dans le sang, ouais. et que tu souhaites finir ta carrière, et qu'il va se passer un truc, et que tu te sens en symbiose. Tais-toi, fais ton boulot. On sait bien que dans 2 ans, tu ne seras peut-être plus là, et c'est normal.
OL
fonctionne comme ça.
OL, le nouveau classique du championnat, demain à 21h en intégralité sur RTL dans Soir de Ligue 1. Juste après les infos, on refait le match, continue jusqu'à 19h30. Toujours 1-0 pour le PSG sur la pelouse de Brest.
RTL, on refait le match.
19h01. Toute l'info avec Alexandre de Saint-Aignan.
Et d'abord le football, Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain. Philippe Audouin, il y a un but.
Et oui, Brest qui vient d'égaliser face au PSG. Un gros quart d'heure de la fin, but de Grand Cyr, alors que Di Maria avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain juste avant la mi-temps. Brest donc qui revient partout.
Merci Philippe Audouin. On parle du rugby, défaite des Françaises contre l'Angleterre pour le premier test de leur tournée d'automne. Les Bleus se sont inclinés 20-10, revanche prévue pour la semaine prochaine. Et puis en top 14, égalité 19 partout entre Toulon et Montpellier. Tout à l'heure, il y a 3 matchs en cours. C'est la mi-temps entre Bayonne et Pau. Pour l'instant, il y a 3 partout. 6-0 pour Bordeaux-Bègles face à Agen. Et puis la deuxième mi-temps vient de reprendre à Castres qui mène 22-9 contre Brive. Et puis en tennis, la finale de la Fed Cup. Suite des matchs, cette nuit pour les Françaises contre les Australiennes. Pour l'instant, à l'issue de la première journée, il y a un partout. Ambiance tendue pour la manifestation des Gilets jaunes cet après-midi à Montpellier. Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans le centre-ville. 10 personnes ont été interpellées. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène très rapidement. Dès le début de la mobilisation, un membre des forces de l'ordre a été blessé à la jambe, selon la préfecture. Une autre manifestation, aujourd'hui à Marseille, un an après l'effondrement de plusieurs immeubles vétustes dans le centre populaire de la cité phocéenne. 8 personnes avaient été tuées l'an dernier. Plusieurs milliers de personnes ont défilé cet après-midi en soutien aux familles. De l'argent pour reconnaître la souffrance des victimes de pédophilie dans l'Église. Les évêques ont voté aujourd'hui. Le principe d'une somme forfaitaire de long montant n'a pas encore été fixé. Elle sera versée aux hommes et aux femmes qui ont été abusés par des prêtres. Ce n'est pas une indemnité judiciaire ni une réparation. Un dispositif déjà jugé insuffisant par les victimes. Roman Polanski à nouveau accusé de viol, cette fois par une photographe française. Les faits se seraient produits en 1975 en Suisse. Dans le chalet du réalisateur, la victime présumée était alors âgée de 18 ans. Roman Polanski affirme qu'il conteste toute accusation de viol selon son avocat. La plaignante avait envoyé plusieurs courriers pour raconter son histoire depuis plusieurs mois, notamment à Brigitte Macron, dont le cabinet assure que la lettre avait été transmise au gouvernement. Le chanteur britannique Pete Doherty a été remis en liberté. Il avait été placé en garde à vue jeudi soir pour avoir acheté de la cocaïne alors qu'il se trouvait à Paris. Le parquet a requis une amende de 5000 euros contre l'ancien petit ami de Kate Moss, qui a déjà fait plusieurs fois les gros titres de la presse pour ses excès liés à sa consommation de drogue. Le temps pour demain, ça va encore se rafraîchir avec même de la neige, principalement sur les monts d'Auvergne et la montagne Corse, respectivement à 800 et à 1300 mètres d'altitude. Ailleurs, souvent un ciel nuageux avec des pluies globalement faibles, des éclaircies qui sont même prévu sur les régions au nord de la Seine et dans le sud-ouest. Les températures pour demain après-midi, il fera 8 degrés à Grenoble et à Paris également 8 degrés, 11 à Carcassonne, 16 degrés à Nice. Il est 19h04 sur RTL. On continue de refaire le match avec vous, Eric Silvestro.
Oui, merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve juste avant 20h, avant le coup d'envoi des matchs du multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France.
On refait le match sur RTL, Eric Silvestro.
La deuxième partie dont refait le match jusqu'à 19h30 sur RTL avec Florian Gazan de la chaîne L'Équipe, Jean-Philippe Goron, formateur à l'ESJ Lille, Baptiste Després du Figaro et Olivier Delos-Buès, journaliste indépendant, va vivre évidemment la fin de match entre Brest et le Paris Saint-Germain, l'égalisation brestoise de Grand Cyr qui relance tout avec Philippe Audouin et Francis Lebet. Puis on parlera de l'équipe de France, la trêve internationale. C'est pour la semaine prochaine avec ce France-Moldavie. Il faut gagner pour être sûr d'être qualifié pour l'Euro 2020. Simple formalité ou pas, ce sera l'un de nos thèmes de la deuxième partie dont on fait le match. Puis on parlera également d'Olivier Giroud. Doit-il aller à l'Inter, par exemple, pour être sûr d'être à l'Euro? De Michel Platini, de retour désormais, sa suspension est levée. Où est-ce qu'on l'attend, Michel Platini? Où est-ce qu'il serait utile? On posera la question à tous nos débats. Et puis le niveau de la Ligue 1 également, avec une belle déclaration de l'entraîneur d'Angers, Stéphane Moulin. À tout de suite.
RTL, on refait le match. Eric Silvestro.
On refait le match.
Eric Silvestro.
Allez, direction tout de suite le stade Francis Leblay, Philippe Audouin, parce que c'est Brest qui pousse désormais pour arracher la victoire face au Paris Saint-Germain.
Et oui, plus que 12 minutes à jouer, les Brestois qui repartent à l'attaque avec un bon ballon de Diallo pour Mendy qui vient de faire son entrée. Mais là, il y a peu de solutions, les Parisiens qui se replient. Mais effectivement, tout à l'heure, c'est Belkebla qui a tenté sa chance sans contrôle à l'entrée de la surface alors qu'il était seul. Et en pleine course, ce ballon qui est arrivé sur le gardien espagnol du PSG, Rico, qui remplace Navas. On le rappelle, Navas gêné par une douleur aux adducteurs. Et finalement, c'est Brest qui a repris le dessus depuis l'égalisation, mais toujours un partout. Donc à 11 minutes de la fin, double changement avec, vous en parliez tout à l'heure, l'entrée d'Icardi. Triple changement, même Choupo-Moting qui va faire son entrée également. C'est Cavani qui cède sa place à Icardi, Marquinhos va faire son entrée également et Choupo-Moting. Ce sont les dernières cartes de Tourelle dans ce match.
Avant de parler de l'équipe de France, messieurs, quand même un petit tour de table par rapport à ce qui se passe sur le PSG. Là, on a l'impression quand même qu'il n'y a plus aucune gestion. Tourelle fait des coachings bizarres, fait des équipes bizarres. Là, il change 3 joueurs d'un seul coup à 10 minutes de la fin. On se pose quand même des questions, Florent Gazan. Ça tourne pas complètement rond, quoi.
Ouais, mais de toute façon, moi j'ai l'impression que depuis l'élimination contre Manchester, il a un peu perdu la main et un petit peu les pédales, Tourelle. Et que il a un peu perdu le mojo, il sait plus trop comment faire avec cette équipe et il cherche quelque chose que j'ai l'impression qu'il trouvera jamais. Mais là, c'est quand même hallucinant, faire rentrer 3 joueurs comme ça d'un coup, alors que l'équipe est en pleine fébrilité. Je suis pas sûr que ça va la consolider. Enfin, c'est étonnant, quoi.
Il y a un peu le feu à la maison.
Ce qui est aussi étonnant, c'est que
Jean-Philippe Gourand,
ce que t'attends d'un entraîneur d'un club comme le PSG, parce que même si le plafond de verre, c'est les 8e de finale pour l'instant en Ligue des Champions, voire les quarts, et on attend quand même que ce club, à un moment, oui, dépasse ça. Mais pour progresser, t'as besoin aussi d'un entraîneur qui te tire vers le haut. Quand tu perds à Dijon et que tu proposes cette bouillie comme aujourd'hui en ce moment à Brest, peut-être qu'au final ils vont gagner quand même.
Sachant que le match contre Bruges en Ligue des Champions n'était pas non plus extraordinaire.
Mais il y a un moment, c'est aussi à toi, Tourelle, de prendre tes responsabilités et peut-être de temps en temps d'organiser un peu des semaines commando et tout ça, de bouger un peu le truc et d'essayer de réveiller les gens. Là, on sent pas des joueurs qui ont véritablement envie de se dépasser. Moi, j'ai un exemple qui est quand même concret. Ce qui fait la différence entre le PSG et les très grands d'Europe en ce moment. Il y a quelques jours, j'ai regardé à la télé Aston Villa Liverpool. Liverpool, ils ont vraiment eu du mal à Birmingham contre Aston Villa. Ils se sont battus comme des chiens jusqu'au bout. Ils ont fini par gagner. Mais ce genre de deuxième mi-temps, comme j'ai vu Liverpool faire à Aston Villa, je vois jamais dans les matchs comme ça à Brest-Dijon le PSG faire ça. Alors oui, de temps en temps, ils sortent une grande première mi-temps contre Marseille, ils les écrabouillent, ils bombent le torse, vous voyez ce qu'on est capable de faire. Mais la régularité, c'est ça qu'on attend de Paris, même dans les matchs comme ça.
Oui. Ouais, mais après, dans certains grands clubs aussi, on a exactement la même situation. À Barcelone, en ce moment, c'est exactement la même situation. Les joueurs qui choisissent leur match, ils choisissent tellement leur match que maintenant, même des matchs de Ligue des Champions, ils passent à travers. Donc ça commence. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain et Tourelle. Tourelle, je ne le défends pas tout le temps, mais il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain. Ouais, mais on a des grands clubs avec des coachs qui sont en difficulté à cette période.
Ça veut dire quelque chose, ça veut dire en gros que c'est les joueurs qui décident les matchs vraiment qui jouent.
Je ne sais pas si tu te souviens, la super interview de Cristiano Ronaldo dans France Football il y a 2 semaines, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, moi si je pouvais, je ne jouerais que les matchs de Ligue des Champions.
Mais lui, quand il est sur le terrain, peu importe l'équipe, il va se défoncer.
Il met l'implication pour être performant à tous ces matchs-là.
Le rôle de l'entraîneur, c'est de faire que les joueurs ils ont envie de jouer tous les matchs. C'est ça son boulot aussi. C'est pas de dire, les gars, vous avez envie de jouer, vous jouez, vous n'avez pas envie de jouer, bon, c'est pas très grave.
Un garçon comme Draxler, il ne joue jamais.
Ça repose quand même le problème du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'en dehors de l'équipe type que tout le monde connaît, que tout le monde rêve de voir jouer sur la durée, tu t'aperçois que dès que t'as 1, 2 et 3 en ce moment, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les remplaçants sont vraiment beaucoup moins bons que les titulaires. C'est ça le problème. Tu prends un club comme Liverpool, tu peux changer un peu les joueurs. Ça continue de gagner quand même.
On pensait
c'est
que ça serait brillant avec des joueurs de complément comme Sarabia, bon, qui a quand même bien baissé de pied depuis. Ça a été pas mal au début, et puis là il baisse de pied. Voilà, on se pose des questions. Après, peut-être que l'avenir leur donnera raison. Hein.
Bah, on se pose des questions aussi sur la gestion des changements de Tourelle. Quand on voit certains garçons, on en a parlé Cavani tout à l'heure, mais quand on voit un Draxler, un Kurzawa, alors Kurzawa, on sait qu'il va pas jouer tous les matchs, ça c'est sûr, avec Bernat derrière, devant lui plutôt. Mais un Draxler, honnêtement, quand on voit un match comme ça là ce soir, on sait pourquoi il va être au frigo encore pendant 6 semaines. Au niveau de l'impact, au niveau de l'état d'esprit, c'est pas ça. Alors après, vous jouez Brest, etc. Mais il faut quand même un minimum. Et là, ce soir, il n'y a pas le minimum.
Enfin, Brest, c'est invaincu à domicile. Brest, on sait que c'est Lagnac. Brest, on sait que c'est tout ça.
C'est pas que Lagnac, ça joue bien.
Oui, il y a aussi ça. Tu sais, t'es attendu que c'est le match de l'année, le PSG.
Et t'as perdu, et puis t'as perdu à Dijon la semaine dernière, quand même. Enfin,
oui, donc tu dois remettre les points sur la ligne.
Jouer contre Bruges, ça fait quand même un enchaînement.
Honnêtement, Olivier, toi, tu connais bien le championnat espagnol, la Liga, tu suis bon. Tu prends la Juventus en Italie. Le nombre de matchs par saison, ou même sans être brillant, ils gagnent 1-0 ou 2-1.
C'est ça. Oui.
Mais voilà, mais ils sont là. C'est pas des matchs brillants, mais dans des matchs comme ça, ils sont là. Le PSG, dans des matchs comme ça, ils ne sont pas toujours
ils
là.
Ils l'étaient souvent avant.
Bah oui, mais enfin, là,
maintenant,
on,
c'est un peu moins
on parle
le cas.
De
mais
cette
oui,
année, mais... et pour l'instant, je trouve que les périodes de flottement comme ça, c'est assez inquiétant à cette période de l'année.
Mais c'est ce que disait Mbappé aussi, c'est à force de concéder comme ça de temps en temps ce genre de défaite, les autres équipes, elles ont repris de la confiance par rapport au Paris Saint-Germain, et elles savent qu'en les bousculant, qu'en les poussant un peu, ça peut sourire. Ça a souri à Dijon, ça a souri à Reims, et je ne serais pas étonné que Brest l'emporte ce soir parce qu'ils ont repris de la confiance et l'espoir renaît quoi.
Tourelle a dit en train, c'est passé un peu inaperçu parce qu'on s'est concentré sur Cavani titulaire, c'est pas grave si on perd des matchs. L'entraîneur du Paris Saint-Germain qui dit ça, c'est quand même pas anodin, et bon, c'est passé un peu inaperçu. Il reste combien, Philippe, à Francis Leblay?
Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire, et à l'instant c'est Di Maria qui a tenté sa chance, mais Larsonneur était vigilant. Le gardien brestois a pu s'interposer. Et c'est Brest maintenant qui est à l'attaque avec un ballon dans les pieds de Mendy, dans la surface de réparation, en retrait pour Cours. Et finalement, la défense du PSG qui peut s'interposer. Plus que 5 minutes 30 à jouer, un partout.
RTL, on refait le match.
Antenne ouverte évidemment pour Philippe Audouin s'il se passe quelque chose entre Brest et le Paris Saint-Germain. Messieurs, je voudrais qu'on parle de l'équipe de France. France-Moldavie, ce sera jeudi.
Peut-être le deuxième but, et oui, le deuxième but parisien avec un raté de la défense brestoise. Et devinez qui a marqué? Icardi, évidemment. Dixième but en 9 matchs pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain. Un ballon qui traîne évidemment dans les 5-50, c'est pour lui. Et c'est au fond, avec à l'origine un centre de Choupo-Moting très mal négocié.
Quel coaching ?
Par la défense centrale brestoise et Icardi qui venait d'entrer effectivement, qui redonne l'avantage au PSG à 5 minutes de la fin.
Mais c'est vrai, bon coaching de Tourelle. Et le débat qu'on a eu, voilà, Icardi, c'est le pot dans la surface. Et c'est pas toujours beau, mais ça fait toujours but.
Ceci dit, il est pas évident à mettre le but que met Icardi. Hein. C'est pas juste, il faut la pousser. Il y a un petit geste, il la contrôle, il la met. C'est un but de buteur.
Et il attend même pas que la balle lui revienne sur l'autre pied. Il met un pointu après avoir contrôlé du pied droit. Bah, c'est le buteur, quoi. C'est le buteur de surface. C'est l'Inzaghi, c'est le Trezeguet, c'est le.
Oui, mais et puis là, on sent qu'il marche sur l'eau quand même.
C'est ce qu'on attend de ce qu'est devenu le PSG en Ligue 1. C'est-à-dire que même quand c'est pas beau, même quand on s'ennuie, même quand c'est moche, ça doit quand même gagner. Ça doit quand même gagner. C'est ça l'exigence qu'ils doivent avoir dans ces matchs-là. Tu peux ne pas être bon, tu peux en avoir rien à faire d'aller à Brest, traîner les pieds parce que c'est à Brest, c'est loin, machin, on a d'autres objectifs. Tu dois quand même gagner. Voilà, c'est ça.
Et là, le débat sur Cavani et Icardi, je pense qu'il est, renvoyé aux oubliettes pour quelques semaines. Je ne dis pas complètement, définitivement. Mais là, Icardi a bien montré aussi pourquoi on l'avait pris. Eh bien, c'est un joueur décisif. De toute façon, c'est un joueur qui marque plus de 20 buts par saison depuis des années. Et voilà,
avec très peu de ballons, c'est hallucinant.
C'est pas toujours beau, c'est pas toujours spectaculaire, mais ça fait but à l'arrivée. On revient à l'équipe de France, France-Moldavie, donc ce sera jeudi soir, Club Lisa spécial sur RTL pour cette rencontre. Est-ce que c'est une simple formalité d'abord? Il faut gagner, il y a la qualif au bout.
Baptiste, c'est une simple formalité quand vous jouez une équipe qui est au-delà de la 150e place au classement FIFA, sans manquer de respect à la Moldavie, ils ont mis 4-1 au match aller les Bleus à Chisinau. Ça devrait être une formalité. Si ne serait-ce que les Bleus sont à ne serait-ce 60%, ce sera une formalité. Alors après, c'est encore une fois, si galvaude ce match, ça peut être compliqué. Mais là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas photo sur un match comme ça.
Alors il y a la qualif évidemment, Florent Gazan, et puis on va en parler. Il y a plus que ça. Il faut aller chercher des points, il faut aller chercher éventuellement la première place du groupe, parce qu'on l'expliquera tout à l'heure. Le tirage au sort de cet Euro 2020 est suffisamment compliqué pour qu'on s'y attarde, mais on a besoin d'être bien placé.
Oui, bah de toute façon, c'est toujours mieux de finir premier de la poule par rapport à qui on peut avoir après comme tirage à l'Euro. C'est autant autant avoir des qualifs sympathiques et commencer la compétition tranquillement pour se mettre en place. En plus, on sait que voilà, une équipe de France est avec une équipe avec des joueurs qui vont énormément jouer, que les débuts de compétition européenne ou Coupe du Monde, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc autant avoir un groupe relativement facile avant d'arriver en huitième ou en quart. Après, si on bat pas la Moldavie, de toute façon déjà tout est dit. Contre la Turquie, on n'a pas fait le plein. Donc déjà, ça, voilà, le groupe il est posé comme ça.
On se met pas en difficulté pour la qualif. Encore que,
bon, honnêtement, évidemment la France va se qualifier. Enfin c'est voilà, ils vont battre la Moldavie. On ne sait pas sur quel score évidemment, mais ils vont battre la Moldavie. Moi, ce que je trouve, ce que j'arrive pas à comprendre.
On bat la Moldavie, on avait dit, ils battront le Luxembourg sans problème.
Oui, bien sûr.
Ah, mais
oui.
Moi, je me méfie maintenant.
Bon, mais on peut pas exclure que la France puisse battre la Moldavie
non,
quand même.
Bon.
Ce que je trouve plus regrettable, quand j'ai vu le tirage au sort de ce groupe au début des éliminatoires, je me suis dit, honnêtement.
On va s'ennuyer.
Avec une équipe de France telle qu'on la connaît, championne du monde, Deschamps va intégrer des joueurs et tout ça, normalement. Tu dois sortir non seulement pour gagner, mais tu ne dois pas perdre un seul match. Tu ne dois pas perdre un seul match. Et je me suis dit, si c'est vraiment des compétiteurs jusqu'au bout, alors bien sûr, il y a l'après-Coupe du Monde qui fait que psychologiquement, tu es un peu fatigué, ce qu'on peut comprendre. Mais tu te dis peut-être qu'une manière de bien vivre les éliminatoires, c'est de te fixer toi-même le challenge de ne pas perdre un match, de ne pas perdre un match. Finalement, contre la Turquie, tu prends un point sur six. Donc, globalement, l'équipe de France, oui, elle va se qualifier, mais s'il y a une certaine logique, elle doit terminer deuxième du groupe. Vu ce qu'elle a montré contre les Turcs. Les Turcs, ils méritent de terminer premier de ce groupe-là, même s'ils ont eu de la chance, parce que deux, trois fois, ils gagnent à la 95e, 1-0. Oui. Bon. Mais ils ont gagné.
Pour faire le point sur le groupe, les deux équipes sont en égalité avec 19 points. La France reçoit la Moldavie jeudi et ira en Albanie pour le dernier match dimanche, alors que la Turquie reçoit l'Islande et se déplacera en Andorre pour le dernier match.
Ce qui n'est pas gagné non plus, recevoir l'Islande. Hein.
Oui, on verra comment ça se goupille. Il faut savoir donc, parce que pour le tirage au sort, il y aura six groupes de quatre équipes, et c'est uniquement les éliminatoires qui désignent les têtes de série. Il n'y a pas le passé, le statut de champion du monde, les points, etc. Donc ce qui veut dire que si tu termines deuxième de ton groupe, tu as aucune chance d'ailleurs de terminer dans le chapeau 1. Et un peu comme en Ligue des Champions, tu peux te retrouver avec un tirage où tu peux avoir l'Italie dans le groupe 1, la France dans le groupe 2, l'Allemagne dans le groupe 3. Bon, tu peux te retrouver avec un très gros tirage pour l'Euro.
De toute façon, un Euro va être plus compliqué qu'une Coupe du Monde dans la première phase. Surtout avec ce nouveau système. Être premier, ça suffit pas. C'est le nombre de points aussi qui rentre en considération pour faire le tri entre les équipes.
Et il y a le problème des villotes, puisque les villotes joueront dans des groupes particuliers. Donc ça veut dire que tu auras peut-être déjà, avant même le tirage au sort, voilà, l'Italie jouera dans le groupe A parce qu'il y a des matchs à Rome. La Russie jouera dans le groupe B, je crois, et l'Espagne dans le groupe E, parce que les matchs sont dans les villes qui correspondent au pays.
J'espère quand même que si l'équipe de France se qualifie, ce que j'espère, en terminant deuxième du groupe, j'espère qu'en communication, elle n'aura pas l'indécence de dire, de se plaindre du groupe qu'elle aura à l'Euro, parce que globalement, c'est elle qui s'est
responsable.
Qui a créé les conditions de se retrouver deuxième quand même, faut pas exagérer. Si t'es champion du monde, n'aie peur de personne, tu peux avoir un gros groupe.
Après, on peut se aussi y aller. 99, l'équipe de France, après la Coupe du Monde 98, s'est arrachée au dernier, grâce à Trezeguet, à la dernière seconde, pour se qualifier finalement, a réussi à gagner l'Euro après avec un groupe difficile où il y avait les Pays-Bas dans son groupe qui était organisateur, et l'équipe de France a pu fonctionner. Je crois que cette équipe de France,
c'est
sur des éliminatoires, c'est comme le PSG face à Brest. Bah ils lèvent le pied un petit peu et puis ils sont capables de réaccélérer sur des gros matchs.
À Brest, on y va justement, on est dans le temps additionnel. Philippe, combien de minutes de temps additionnel?
5 minutes de temps additionnel, plus que 4 désormais, 2-1 pour le Paris Saint-Germain qui a eu deux occasions d'ajouter un troisième but avec un tir de Draxler qui est passé à côté, puis à l'instant une grosse occasion également pour Icardi, enfin en tout cas un tir extrêmement dangereux qui a terminé sa course dans le petit filet brestois, et peut-être une occasion à suivre pour les Bretons avec un coup franc tout près de la surface de réparation parisienne. Tout le monde semble prêt désormais avec l'arbitre monsieur Lesage qui a indiqué au mini-mur parisien de deux joueurs de ne plus bouger. Coup de sifflet de monsieur Lesage pour ce coup franc qui est renvoyé de la tête par la défense parisienne. Le ballon qui revient devant le but du PSG qui voyage dans cette surface. Oh, la reprise de volée de Charbonnier qui file de peu au-dessus du but, mais elle est quand même pas très souveraine cette équipe parisienne sur des coups de pied arrêtés notamment. 2-1 toujours pour
2-1 toujours pour le PSG. Courte pause, on vit la fin du match avec toi évidemment Philippe, et puis les express dont refait le match pour terminer l'émission.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match. Eric Silvestro.
Allez, avant les express de fin d'émission, Francis Leblay, Brest, Paris Saint-Germain, il reste quoi? Une minute trente dans le temps additionnel, 2-1 pour le PSG, Philippe Audouin.
1 minute 15 pour être précis, 2-1 effectivement.
J'étais bien, donc entre 1 et 1 minute 30, j'étais bien.
Pour les Parisiens, et on va peut-être même en rajouter parce qu'il y a eu quelques petits arrêts de jeu dans ce temps additionnel. Les Brestois là qui récupèrent un ballon alors que Di Maria, les Parisiens avaient ce ballon, ils l'ont sorti puisque Di Maria était au sol et finalement les Brestois repartent à l'attaque. Ils sont désormais dans la moitié de terrain parisienne. Il reste 50 secondes dans le temps additionnel. Marquinhos là-bas qui se bat pour récupérer un ballon et il y parvient. Icardi maintenant pour Choupo-Moting dans le rond central, mais il a de l'espace. Choupo-Moting, il en profite, il s'approche de la surface de réparation, il est crocheté. Coup franc à suivre pour le Paris Saint-Germain. J'ai bien peur que pour le reste ce soit la fin effectivement, parce qu'à 30 secondes de la fin du temps additionnel, les Brestois n'auront plus le temps, même si le coup franc ne donne rien, n'auront plus le temps de porter le danger devant le but de Rico. Et les Parisiens, donc, ils s'acheminent vers une victoire extrêmement laborieuse, tirée par les cheveux même, puisque, on le rappelle, les Parisiens ont été un petit peu chahutés en première mi-temps. Ils ont quand même ouvert le score par Di Maria juste avant la pause. Et puis Brest a égalisé à la 72e par Grand Cyr sur une action où d'ailleurs, on ne l'a pas signalé, mais Thiago Silva n'a pas été impérial, loin s'en faut, sur cette action. Et puis Icardi qui a remplacé un Cavani transparent, eh bien Icardi qui donne l'avantage, qui redonne l'avantage au PSG à 5 minutes de la fin, juste après son entrée. Le coup franc à suivre donc pour les Parisiens. On n'est pas prêt de le tirer, hein, pour ne rien vous cacher, puisque le mur est encore en train de se placer sous les ordres de monsieur Le Sage. Et les Parisiens qui ne vont pas se risquer à se découvrir sur ce coup franc, ils vont laisser la responsabilité du tir évidemment au spécialiste Di Maria, qui a marqué son 5e but de la saison en Ligue 1 aujourd'hui avec 6 passes en plus. C'est quand même le grand bonheur du PSG depuis le début de la saison. Di Maria qui va peut-être avoir une occasion avec ce coup franc d'améliorer ses stats. Il est frappé, ce coup franc renvoyé par le mur brestois. Monsieur Le Sage qui porte le sifflet à la bouche et qui siffle la fin du match, la victoire du PSG qui, après sa défaite à Dijon, avait besoin de réagir, n'a pas montré grand-chose, mais a assuré l'essentiel avec cette victoire. 2-1, donc, avec les buts de Di Maria et d'Icardi contre une égalisation de Grand Cyr pour les Brestois.
Merci beaucoup, Philippe. Très bonne soirée du côté de Brest. Di Maria, qui, au passage, n'est pas sélectionné en équipe nationale d'Argentine, alors qu'Olivier Giroud, qui, lui, ne
alors
joue plus.
Alors que Paredes y est, c'est quand même extraordinaire.
Alors que Paredes y est, Olivier Giroud, lui, est toujours en équipe de France, alors qu'il ne joue jamais. Non, alors juste un petit mot, Olivier Giroud, on a entendu que Chelsea ouvrait enfin la porte pour un départ en janvier. On a parlé de l'Inter, Conte chercherait une doublure à Lukaku. Est-ce que c'est bien porte de sortie pour Giroud? Il va encore être sur le banc. Hein,
mais... Ah bah oui, à l'Inter, oui, il sera remplaçant.
Mais il sera pas troisième, il sera deuxième.
Bah attends, il y a Lautaro Martinez qui cartonne, Alexis Sanchez qui va revenir.
Mais il y a des blessures. Il y a des blessures. Donc ouais, l'Inter vraiment... non, pas bon choix l'Inter.
Mais non, mais en fait,
le club français pourrait être sûr de jouer.
À Bordeaux,
mais Giroud...
à Bordeaux, il pourra jouer avec Laurent Koscielny, avec son copain, ça peut être pas mal.
Écostyle, les amis de Londres. Mais non, mais pourquoi il va pas chercher un club un petit peu en dessous? Il pourrait rester à Londres, un West Ham, un Crystal Palace. Il a plus rien à prouver en club. Lui, ce qui compte aujourd'hui pour lui, c'est la carrière en équipe nationale, c'est faire l'Euro. Et ben, pourquoi pas, rêvons, aller au Qatar avec Didier Deschamps. Sait-on jamais. Mais il faut qu'il joue et qu'il prenne un club un petit peu en dessous où il jouera beaucoup. C'est ça qui compte pour lui. Il va pas, il veut plus gagner la Ligue des Champions ou la Ligue en page.
Mais je pense qu'il a assez intelligent justement pour faire la part des choses. Là-dessus, au niveau salarial, ça sera pas une priorité. Il a juste besoin de jouer pendant 6 mois.
Mais si on marque une dernière pause dans son refait le match et on terminera l'émission avec 2 petites questions autour de Michel Platini et de la Ligue 1. Avant le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France, Christian Olivier, Philippe Sanfourche et Giovanni Castelli.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Éric Silvestro.
19h29, avant de passer la main à Christian Olivier, qui nous a rejoint dans ce studio avec Philippe Sanfourche et Giovanni Castelli. Tiens, on voulait parler de Michel Platini, qui sera l'invité d'ailleurs tout à l'heure du 5 à 7, Christian Olivier.
Absolument, bonsoir messieurs. Le 5 à 7 de Platini à 22h05.
Grosse tournée médiatique, il était chez Thomas Soto sur RTL jeudi soir de 18h à 20h, Michel Platini. Bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais alors, où on l'attend Michel Platini maintenant? Qu'on l'attend?
On lui a posé la question.
Mais pour l'instant, il réfléchit.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors, la grande revanche, président de FIFA, en tout cas candidat aux élections de la FIFA, on n'y croit pas trop. Éventuellement, ça c'est en 2000, je ne sais plus d'ailleurs, 2022 je crois, ou 23.
À vérifier.
Ouais. 2020, la présidence de la Fédération Française de Football, pourquoi pas?
Où il y a des tensions d'ailleurs qui sont apparues cette semaine. Et au grand
exactement.
Jour.
Alors la dernière rumeur c'est l'AS Saint-Etienne maintenant, mais enfin quand on lui pose la question, de toute façon il réfléchit, il a besoin de purger certains autres problèmes.
Attention de ne pas trop réfléchir comme Laurent Blanc, parce que ça fait 3 ans qu'il réfléchit.
Mais je joue pas au golf.
Olivier de l'SBS.
Le président Macron, après sa déclaration, il va pas lui proposer le ministère des Sports.
Ah,
chose d'autre, peut-être Premier ministre même, tellement il y avait une déclaration d'amour jeudi soir.
Vous l'attendez où, vous, Michel Platini?
Président de la Fédération française, ça me semble bien pour
Jean-Philippe
lui.
Jean-Philippe Gorand, ouais.
Ça me le semble bien parce que c'est. Voilà, c'est, il est temps qu'on passe un cap avec le président actuel, je pense qu'il a fait son temps, qu'il a bien bossé, qu'a remis de l'ordre financier aussi dans les comptes de la Fédé, il ne faut pas l'oublier.
Vous voulez que je vous raconte l'histoire avec la 3F, cher Jean-Philippe? C'est-à-dire que Noël Le Graët va se présenter à la candidature et puis il restera 2 ans à la présidence et ensuite il donnera le relais de façon provisoire pour les 2 nouvelles années ou à Florence Ardouin ou à Brigitte Henriques, le foot au féminin à la Fédération française de football.
Et derrière Didier Deschamps, président de la
Fédé. Quel programme,
ouais. C'est Nostradamus qui est dans le studio, c'est pas Christian Olivier.
Incroyable.
Bon, et vous l'attendez-vous, Michel Platini?
Ça peut faire une belle bagarre avec Le Graët au niveau de la
Fédé, c'est bien.
Ça peut être, pour nous journalistes, ça peut être génial.
Christian Olivier, est-ce qu'Angers joue ce soir?
Bien sûr.
À 20h.
Bien sûr, contre Reims.
Voilà. J'ai adoré. Stéphane Moulin a dit, quand Leicester est 3e de Première Ligue, tout le monde s'extasie. Quand Angers est 2e Ligue 1, on dit que la Ligue 1 est nulle. J'adore cette
sortie. Mais vous avez vu jouer Leicester cette saison?
Il joue très bien.
Il joue très très bien.
Bah, Angers aussi, c'est
très, très bien. Champion, oui, il a 3 ans.
Non, mais il a raison. Mais Leicester, il faut dire à l'entraîneur d'Angers que la seule différence, c'est qu'il y a quelques saisons, pas si loin.
Ils ont été champions.
Leicester
non, mais
a
le problème, ce n'est pas Angers 2e. Le problème, c'est que Angers 2e, Nantes 3e, Bordeaux 4e et que tous les grands clubs ne sont pas là. Alors que Leicester est au milieu des grands.
C'est qu'ils ne sont pas si grands que ça. Voilà, c'est tout.
Mais non, mais la Ligue 1, c'est devenu une tête avec un gros ventre mou.
C'est pas mal, ça. Je suis un peu comme la Ligue 1, en fait. Voilà. Je suis le sosie de la Ligue 1.
Et Michel Platini adore la Ligue 1, il le dira ce soir sur RTL.
Dans le multiplex, RTL Le Parisien aujourd'hui en France, 19h30, 23h, avec Giovanni Castaldi, Philippe Sanfourche, Christian Olivier, ça commence tout de suite.